Laudetur Jesus Christus.
Vous êtes signe d'espérance et témoin de paix. La première rencontre surprise entre le pape Léon XIV et la jeunesse catholique hier soir sur la place Saint-Pierre. Nous revenons en détail sur la messe d'accueil et les attentes de ces jeunes en cette ouverture officielle du jubilé qui leur est dédiée. Dans l'actualité internationale, les alliés d'Israël amorcent un durcissement de leur position. C'est le cas de l'Allemagne qui annonce un pont humanitaire aérien avec Gaza. Candidat à son quatrième mandat, Alassane Ouattara met fin au suspense en Côte d'Ivoire. Il faudra compter avec lui pour la présidentielle du 25 octobre. Et puis, c'est un royaume enclavé sur le territoire sud-africain. Le Lesotho a décrété l'état de catastrophe nationale, déjà acculé par la menace des tarifs douaniers américains.
Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
Buonasera, buenas tardes, good evening. Jesus tells us, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Vosotros sois sal de la tierra, luz del mundo. Ci troviamo a Tor Vergata. Buona settimana.
Bonjour à tous, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. C'est en plusieurs langues que Léon XIV s'est adressé aux 120 000 jeunes galvanisés pour l'ouverture du jubilé mardi soir place Saint-Pierre. Le pape est arrivé de façon inattendue vers 20h30 au soleil couchant, saluant, bénissant la marée de jeunes depuis sa papa mobile avant de leur dire quelques mots. Première surprise de ce jubilé au terme donc de la messe d'accueil célébrée par le pro-préfet du dicaster pour l'évangélisation, Monseigneur Fisichella. Le compte-rendu de Jean-Charles Puzzolu.
Merci d'avoir accepté l'invitation du pape à participer à ce jubilé, a dit en ouverture de la célébration Monseigneur Rino Fisichella. Certains d'entre vous viennent de zones de guerre, de l'Ukraine à la Palestine, alors que les signes de votre amitié ne laissent personne indifférent.
La fede est un incontro.
La foi est d'abord une rencontre, a lancé Monseigneur Fisichella dans son homélie. Une rencontre avec le Christ et une rencontre avec notre prochain, car notre mission est aussi de donner à manger et à boire à ceux qui ont faim et soif, de donner un sourire à tous ceux qui pleurent. Nous vivons une époque de grande violence qui ne se limite pas aux zones de guerre. Elle est dans nos rues, dans nos villes, dans nos écoles. Nous devons être des artisans de paix. Si nous construisons la paix, le monde connaîtra la paix. Les paroles de Monseigneur Fisichella ont été suivies à la fin de la célébration par celle du pape Léon, qui a fait la surprise aux jeunes de venir les saluer. Après une longue traversée de la foule en papa mobile, et avant de donner sa bénédiction aux jeunes, le pape les a invités à prier pour la paix. Notre cri doit aussi être pour la paix dans le monde. Nous voulons la paix dans le monde, a-t-il demandé aux 120 000 jeunes présents de répéter.
Vogliamo la pace nel mondo.
Jean-Charles Puzzolu est parmi ces 120 000 jeunes colorant la place Saint-Pierre de drapeaux de toutes les nations. L'engouement et l'enthousiasme ont bien sûr prédominé. Écoutons certains d'entre eux, de jeunes pèlerins français.
On ne parle pas la même langue, on sait qu'il y a le pape et on est trop motivés pour se rencontrer et c'est incroyable.
Je pense que c'est très important d'avoir des temps comme ça dans nos vies de foi, qui sont un petit peu à part de nos quotidiens, surtout lorsqu'on vit dans des grandes villes. Vous voyez, des moments comme ça où on peut se retrouver entre jeunes dans des lieux importants tels que Rome. Voilà, pour montrer qu'on n'est pas seul dans notre religion, dans notre foi, et que toutes ces convictions sont portées par des grandes figures de saints et des messages forts que le pape nous véhicule aussi.
Pouvoir justement voir ce que ça représente l'Église avec tous ces jeunes qui nous entourent et rencontrer bien sûr le pape Léon, profiter d'un moment spirituel avec des amis, parce que voilà, je fais pas souvent ça et je trouve ça trop chouette depuis le début.
Partager un temps avec mes amis spirituels, un peu comme un pèlerinage. J'ai déjà été au JMJ avant et ça y ressemble beaucoup. J'aime beaucoup l'ambiance qui est ici. Ouais. En ce monde qui a beaucoup de blessures ou en tout cas qui traverse de grosses épreuves, on a besoin aussi un peu de la miséricorde de Dieu pour être vraiment porté dans notre foi et de recevoir beaucoup de grâce à travers ça.
Des témoignages recueillis par notre consoeur Camille Meyer de RCF Radio Notre-Dame. Parmi les plus de 20 000 jeunes français présents, le troisième groupe le plus important après les 90 000 Italiens et 23 000 Espagnols, le pape avait reçu dans la matinée 800 d'entre eux, spécifiquement des catéchumènes et néophytes de l'Hexagone. Il les a remerciés de s'engager dans la foi à l'heure de société prônant une culture de mort, puis en italien, en anglais et en espagnol. Léon XIV a aussi parlé mardi aux influenceurs catholiques qu'il a invités à promouvoir une culture de l'humanisme chrétien sur Internet. Prochain rendez-vous avec le pape avant la veillée géante samedi soir et la grand-messe dimanche matin sur le campus de Tor Vergata de Rome. L'audience générale, place Saint-Pierre, dans un peu plus d'une heure maintenant. Ce sera à suivre en français sur vaticannews.va. Sur les fronts diplomatiques et humanitaires, tout s'accélère pour Gaza où la menace d'une famine généralisée se concrétise. Selon l'ONU, les Nations Unies appellent à inonder l'enclave palestinienne d'aide alimentaire pour l'éviter. Le filet d'aide doit devenir un océan, a lancé hier le secrétaire général Antonio Guterres. Dans les airs, les parachutages de vivres autorisés depuis dimanche par Israël se multiplient, menés par les Émirats Arabes Unis, entre autres, et pour la première fois hier par le Royaume-Uni. La France, elle, larguera 40 tonnes d'aide à partir de vendredi. En Allemagne, le chancelier Friedrich Merz est mis sous pression pour durcir ses critiques et ses actes envers Israël. Il a annoncé organiser avec la Jordanie et le soutien de la Grande-Bretagne et de la France un pont aérien. À Berlin, Delphine Nerbollier.
Nous sommes là, nous aidons. C'est avec ces mots que le chancelier Friedrich Merz a décrit la mise en place d'un pont aérien avec la bande de Gaza. Le chancelier a lancé cette initiative avec la Jordanie. Deux avions de l'armée sont en route vers ce pays et pourraient commencer à larguer des colis d'alimentation et de médicaments dès ce mercredi. Avec cette action, le gouvernement allemand tente de mettre fin aux critiques qui, depuis des semaines, montent dans le pays. Friedrich Merz est en effet accusé de ne pas faire assez pression sur les autorités israéliennes pour mettre un terme à la catastrophe humanitaire à Gaza. Si le chancelier a durci le ton envers son allié israélien, il a refusé la semaine dernière, par exemple, de signer, aux côtés de 28 autres pays, un appel à cesser immédiatement la guerre. Berlin refuse aussi de suivre l'exemple français de reconnaître rapidement un État palestinien. Insuffisant, estiment désormais de très nombreuses voix en Allemagne qui demandent des actes forts contre le gouvernement israélien, comme la suspension des livraisons d'armes. Pressées politiquement et moralement, les autorités allemandes tentent donc de répondre aux critiques avec ce pont aérien. Mais lui aussi est critiqué par les ONG. Elles le jugent inefficace et dangereux. Le largage d'aide par avion sera néanmoins mené dans les jours à venir. Berlin, Delphine Nerbollier pour Radio Vatican.
À New York, hier, se poursuivait la conférence onusienne sur la question palestinienne. 17 pays, dont plusieurs du monde arabe, comme l'Arabie Saoudite, le Qatar ou l'Égypte, y ont appelé au désarmement du Hamas. C'est à savoir que l'intention de prière du pape pour le mois d'août est dédiée à la cohabitation pacifique entre les peuples. Les observatoires météorologiques et instituts de géophysique rivés sur les conséquences du séisme de magnitude 8,8 qui a touché le large de la Russie cette nuit. Des alertes au tsunami ont été lancées dans tout le Pacifique, du Japon au Mexique en passant par Hawaï. Les personnes âgées de plus de 60 ans seront bientôt enrôlées dans l'armée ukrainienne. Volodymyr Zelensky, en difficulté pour recruter des soldats, a signé une loi en ce sens ce mardi. En Australie, les moins de 16 ans, eux, auront interdiction de se rendre sur la plateforme YouTube. D'après une annonce du gouvernement ce matin, le pays qui se veut pionnier en la matière avait déjà interdit en novembre dernier les réseaux sociaux pour cette tranche d'âge. Alassane Ouattara sera candidat à la présidentielle ivoirienne en octobre prochain. Le chef de l'État au pouvoir depuis 2011 l'a annoncé lui-même hier, réjouissant ses partisans, crispant ses opposants. À Abidjan, Mohamed Lamine.
Après mûre réflexion et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est ainsi qu'Alassane Ouattara a mis fin au suspens sur sa candidature. Alors que le doute avait plané longtemps sur sa décision, des indices ont levé le voile sur ses intentions au fil des mois jusqu'à cette annonce officielle. À 83 ans, Alassane Ouattara est en passe de faire un quatrième mandat consécutif à la tête de la Côte d'Ivoire. Car en l'absence de candidat majeur de l'opposition, le chef de l'État part favori et pourrait faire un score fleuve comme lors des deux dernières élections. Pour expliquer cette candidature-ci, il déclare que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. L'annonce a immédiatement suscité de vives réactions au sein de l'opposition. Tidiane Thiam, leader du PDCI, a qualifié cette démarche de violation de la Constitution et d'attaque contre la démocratie. De son côté, Damana Picasse, cadre du PPACI de Laurent Gbagbo, a dénoncé une candidature inconstitutionnelle. Seuls les partisans d'Alassane Ouattara, qu'il avait récemment investi, ont chaleureusement accueilli sa décision, y voyant une réponse favorable à leurs sollicitations. Abidjan, Mohamed Lamine pour Radio Vatican.
Au Lesotho, petit pays enclavé d'Afrique australe, près de 40 000 emplois seraient menacés si l'accord commercial préférentiel avec les États-Unis, l'AGOA, n'était pas renouvelé d'ici la fin septembre. Le produit intérieur brut national dépend fortement de ses exportations de produits textiles, notamment de jeans vers les États-Unis, son deuxième partenaire commercial après l'Afrique du Sud. Les tarifs douaniers américains, bien que suspendus, affectent le petit royaume. Les rares commandes restantes s'avèrent désormais plus risquées que rentables, alors que le pays fait face à un taux de chômage très élevé, 38% en février, chez les jeunes. L'état de catastrophe nationale y a été instauré pour 2 ans. L'éclairage ce matin de Thibaut Courtz, analyste en géopolitique africaine, spécialiste de l'Afrique australe.
Dans la guerre tarifaire de l'administration Trump, vous avez eu une répercussion, là, une augmentation du taux de chômage drastique. L'inquiétude aux Lesotho est très vive. Ça fait plusieurs années que le pays traversait des crises économiques et politiques. Donc ça vient rajouter à cet autre niveau. Et puis l'autre niveau d'inquiétude qui s'est rajouté, c'est qu'au-delà des tarifs, le Lesotho, comme le Botswana, l'Afrique du Sud ou l'Eswatini et ex-Swaziland, ont des taux de VIH assez élevés. Et une bonne partie de la réponse médicale provenait de l'aide américaine. Donc tous les doutes et les blocages qui ont eu lieu autour de USAID viennent rajouter en plus à cela pour un pays comme le Lesotho.
Ce petit royaume d'Afrique australe voit son économie asphyxiée. Pourquoi est-il aussi durement frappé par les tarifs douaniers américains ?
C'est une question toujours à creuser nécessairement. Et en fait, vous avez quelque chose, les jeans Levi's notamment, très concrètement, qui étaient en partie fabriqués au Lesotho avant d'arriver sur le marché américain. Certaines personnes évoquent le fait que des acteurs chinois ont notamment profité de l'accès préférentiel du Lesotho au marché américain pour en fait faire passer du matériel et des produits via notamment le Lesotho. On ne trouve pas forcément de traces de ces éléments-là côté américain, mais c'est des choses qui sont regardées et analysées côté africain. On parle quand même de 40 000 emplois qui pourraient être menacés actuellement dans un pays où le taux de chômage chez les plus jeunes, par exemple, à quasiment 40%.
Les exportations de vêtements vers les États-Unis sont lourdement pénalisées. Quel avenir pour le secteur du textile, pilier de l'économie nationale ?
Là, aujourd'hui, c'est une vraie catastrophe. Il est très difficile de se retourner et de trouver d'autres marchés. La situation en Afrique australe, le premier marché, c'est l'Afrique du Sud. Mais les relations entre les pays font qu'il y a très, très peu d'échanges entre les pays de l'Afrique australe, même du reste du continent. Donc, ce n'est pas comme si les autos pouvaient tout d'un coup décider de simplement vendre ses invendus désormais en Afrique du Sud. L'Afrique du Sud protège, fait très attention à ce qui peut être vendu sur son territoire. Donc, pour le Lesotho et le textile, le problème, c'est vraiment la difficulté, voire la quasi-impossibilité à très court terme de trouver un autre marché. C'était vraiment l'accord AGOA qui avait permis cette exception pour le Lesotho de pouvoir trouver un marché spécifique aux États-Unis. Sur les discussions que vous pouvez imaginer avec les Européens ou d'autres marchés, à l'heure actuelle, il n'y avait pas de partenaire économique en mesure de remplacer ce que les États-Unis offraient jusqu'à présent.
L'état de catastrophe a été déclaré dans le pays jusqu'au 30 juin 2027. Que vise concrètement cette mesure ?
L'idée derrière la déclaration d'état de catastrophe, c'est de pouvoir débloquer des fonds plus rapidement et plus facilement qu'avant pour faire un peu de contrôle des dommages et des impacts, de l'impact négatif de cette décision. Toutefois, l'État du Lesotho ne pourra pas le faire sans un soutien, sans aller emprunter de l'argent quelque part. Et en fait, la particularité de cette crise, c'est qu'à la différence de, par exemple, 2008, où là, la catastrophe était mondiale, donc vous aviez plusieurs fonds spécifiques qui s'étaient créés, que ce soit au FMI, l'Union européenne avait créé des fonds de soutien aussi. Là, vous n'avez pas ça. Les personnes avec qui j'ai pu discuter dernièrement me disent tous que le problème ne partira pas comme cela, donc ils se préparent à ce que cela dure. notamment dans une période où en fait tous les autres pays de la région sont aussi impactés et rencontrent des difficultés économiques.
Interrogé par Myriam Sandouno, Thibaut Courtz, analyste en géopolitique africaine et spécialiste de l'Afrique australe, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Grand merci de votre fidélité à notre antenne. L'information de Radio Vatican revient en direct à 13h, heure de Rome, et se prolonge sur vaticannews.va, notamment pour tout ce qui concerne le jubilé des jeunes. Très belle journée.